RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, l'arbre suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ambassade d'Indonésie au Caire explique l'Indonésie en toute sécurité. Le forum d'affaires indonésien-français à Bordeaux, la France. Selon le ministère de l'Industrie, l'industrie de batik indonésienne est en tête du marché mondial. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a assisté au sommet spécial de Loki à Istanbul. Les spécialités de café ont attiré l'attention du public de la Suède et la Lettonie. Le ministère du Tourisme forme des chauffeurs de taxi à être des consultants de destination. Chermi nous présente maintenant le journal complet. L'ambassade de la République d'Indonésie au Caire continue d'expliquer la situation de sécurité en Indonésie au gouvernement et au peuple de l'Égypte. Cela lié aux dizaines de pays qui ont émis des conseils de voyage ou appels de voyage pour les citoyens qui se rendront en Indonésie après les actes de terreur à Surabaya, Sidoarjo et Pekanbaru. L'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, M. Helmi Fauzi, a déclaré qu'à chaque réunion avec le gouvernement et le peuple égyptien, il a toujours expliqué que l'Indonésie était sûre d'être visitée. Il a dit récemment au Caire que jusqu'à présent, le gouvernement égyptien était très compréhensif sur la situation dans ce pays. Il donne également le soutien à l'Indonésie afin de rétablir la sécurité et de maintenir la situation après la terreur. En plus de soutien du gouvernement égyptien, l'ambassade d'Indonésie au Caire a également reçu le soutien de l'université Al-Azhar et la plus haute autorité religieuse en Égypte. Helmi croit que l'Égypte n'émettrait pas de conseils de voyage pour les citoyens qui se rendront en Indonésie.
Terkait dengan beberapa peristiwa serangan teroris di Indonesia, kami telah menjelaskan.
Concernant les attaques terroristes en Indonésie, nous avons expliqué à certains milieux en Égypte sur ce problème et des mesures prises par le gouvernement de l'Indonésie. Le gouvernement égyptien comprend que le terrorisme est répandu dans le monde et ils sont très confiants que l'Indonésie peut y faire face. Comme l'ont signalé plusieurs médias indonésiens, 14 pays émettent actuellement des avis de voyage tels que les États-Unis, l'Australie, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, le Canada, les Philippines, le Brésil, l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, la France et la Pologne. L'ambassadeur d'Indonésie en France, M. Hotmang Raja Panjaitan, à l'ouverture du Forum d'affaires indonésien-français à Bordeaux, la France, récemment, a déclaré que divers efforts pour améliorer l'économie, l'investissement et le commerce continuent à encourager par le gouvernement indonésien, entre autres via le développement et les réformes politiques. L'objectif est d'améliorer l'efficacité économique, d'améliorer le système de licences et d'attirer les investissements étrangers. Dans le secteur des infrastructures, le président Joko Widodo continue à faire du développement, notamment pour l'énergie et le transport, tels que la route, le chemin de fer, le port, l'aéroport, afin de soutenir le développement du secteur industriel, notamment la fabrication en Indonésie. Le forum d'affaires a été participé par environ 21 hommes d'affaires de Bordeaux de divers secteurs, y compris les importateurs de produits alimentaires, l'industrie du vin, la gestion des fonds, les énergies renouvelables et la consultation. Il est également présent l'homme d'affaires indonésien Suryo Tutuko de PT Interaromat aux Pays-Bas. L'ambassadeur Panjaitan a également invité les hommes d'affaires français, notamment de Bordeaux, pour augmenter la valeur du commerce en Indonésie. Jusqu'à présent, le produit de Bordeaux qui était arrivé en Indonésie, généralement du vin, tandis que les produits indonésiens entrant sur le marché de Bordeaux comprennent le café, le thé et les meubles. L'industrie du batik de l'Indonésie a maîtrisé le marché mondial, ainsi elle est capable d'être un moteur pour l'économie nationale. Cela peut être vu de la réalisation des exportations de batik et de produits de batik en 2017 s'élève à 58,46 millions de dollars américains, avec les principaux pays de destination comprennent le Japon, les États-Unis et l'Europe. Le directeur général des petites et moyennes entreprises, Madame Gati Wibawaningsih à Jakarta jeudi a déclaré que l'industrie nationale du batik avait une compétitivité comparée et compétitive sur le marché international. L'Indonésie est également un leader du marché qui contrôle le marché mondial du batik. Selon Madame Gati, le commerce mondial des prêt-à-porter atteint aujourd'hui 442 milliards de dollars américains. Cela peut être une grande opportunité pour l'industrie nationale du batik afin d'augmenter sa part de marché en considérant le batik comme une matière première pour les vêtements. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président de la République d'Indonésie, M. Yusuf Kalla, est parti jeudi soir en Turquie pour assister au sommet de Loki. Ce sommet a eu lieu pour répondre au développement récent en Palestine après le déplacement de l'ambassade américaine à Tel Aviv, Jérusalem, le 14 mai 2018. Le déplacement de l'ambassade a entraîné des affrontements à la frontière de Gaza et d'Israël. Cet affrontement a entraîné la mort de civils. Avant l'organisation du sommet de Loki, une série de réunions ont lieu au niveau des réunions de hauts fonctionnaires et au niveau du ministre des Affaires étrangères. Selon le projet, le vice-président et sa suite reviendront dans le pays dimanche. L'ambassade d'Indonésie à Stockholm a organisé une promotion de spécialité du café indonésien en Suède et en Lettonie du 14 au 17 mai avec un mélange de café provenant de divers types de grains de café excellents en Indonésie. Madame Rahmawati Wulandari, chef de la fonction économique de l'ambassade d'Indonésie à Stockholm, a déclaré jeudi que l'événement de promotion du café qui a porté le thème de la ferme à la coupe vise à accroître la connaissance et l'attention du public suédois et letton sur la supériorité du café indonésien. L'ambassadeur indonésien en Suède et en Lettonie, Bagas Hapsoro, a déclaré que le café indonésien avait un goût type et unique par rapport au café d'autres pays. L'Indonésie, qui est actuellement le quatrième producteur et exportateur de café dans le monde, a le potentiel d'accroître ses exportations de café vers les pays étrangers. Monsieur Bagas Habsoro espère, avec cette promotion, sera suivie par l'augmentation des exportations indonésiennes de café vers la Suède et la Lettonie. Le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, forme des chauffeurs de taxi pour devenir un consultant de destination touristique, ainsi qu'une partie de l'ambassadeur d'un merveilleux de service de l'Indonésie au visa. Le ministre Arif Yahya à Jakarta jeudi a déclaré que sa partie fournit une formation aux formateurs qui couvre le matériel de service touristique d'ambassadeur pour 100 chauffeurs de taxi Bluebird. Selon lui, à travers de la formation, les chauffeurs de Bluebird pourraient jouer un rôle maximum en tant que consultants de destinations touristiques en fournissant les meilleures recommandations telles que les hôtels, les restaurants, les destinations touristiques historiques et naturelles pour les passagers de Bluebird, notamment les touristes nationaux et étrangers. Les activités de formation des ambassadeurs du service du tourisme comprennent la connaissance du tourisme indonésien ainsi que les techniques de promotion de destinations touristiques. Ce programme est une continuité d'une série de coopérations entre Bluebird et le ministère du tourisme qui a été mis en œuvre en mars 2018. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la réunion de Kim Jong-un, Trump sera-t-elle annulée? Le monde attend une rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui se tiendra le 12 juin. Cependant, en attendant la réalisation du moment historique, Pyongyang, mardi, à local, a soudainement menacé d'annuler le sommet. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Kim Ki-gwan, a déclaré que son pays n'était plus intéressé par les pourparlers et qu'il reconsidérerait sa présence. La raison, parce que les États-Unis sont considérés comme provoquant Pyongyang avant le sommet en lançant des déclarations stupides. Une autre raison pour laquelle Pyongyang n'est pas intéressé par les négociations, ce sont les demandes américaines de dénucléarisation. Unilatéralement, les États-Unis ont demandé à la Corée du Nord d'arrêter son programme d'armement nucléaire pour la réunion de 12 juin entre les deux chefs d'État. L'une d'elles qui provoque la colère de la Corée du Nord est l'affirmation du politicien conservateur américain extrémiste John Bolton au cours du week-end. Il a déclaré que la Corée du Nord pourrait suivre le modèle de désarmement nucléaire de la Libye, c'est-à-dire arrêter d'abord tout le programme d'armement, puis obtenir une aide économique. Lors de la réunion, la Corée du Nord a déclaré qu'elle était engagée dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne. L'accord sur la réunion entre Kim Jong-un et Trump est une avancée majeure après la réunion de deux dirigeants coréens, Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in à Panmunjom le 27 avril dernier. À cette réunion, la Corée du Nord était engagée dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cependant, cela ne signifie pas que les étapes vers la dénucléarisation de la péninsule coréenne se déroulent bien. Il faut comprendre que la Corée du Nord a dépensé autant de temps et d'argent au fil des années pour construire ses armes nucléaires, tout pour montrer leur existence en tant que pays. Ainsi, la demande de dénucléarisation est très lourde pour le Nord. Comprendre la signification nucléaire pour le Nord depuis le début, le premier ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a averti que les négociations sur la dénucléarisation dans la péninsule coréenne pourraient ne pas se dérouler sans heurts. Les États-Unis et leurs alliés doivent être patients et prudents lorsqu'ils prennent des mesures, y compris dans l'émission des déclarations qui tentent à nuire aux engagements qui sont précédemment construits. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui. Le 18 mai 1980, la montagne St. Helens a éclaté. Cette montagne est un volcan actif situé dans le comté Skamania, Washington, les États-Unis. Cette montagne fait partie de la chaîne de montagnes Cascade et autrefois connu comme Luala Cloud, de la langue régionale qui signifie « volcan » ou « enfumé ». Cette montagne est surtout connue pour son éruption survenue le 18 mai 1980. L'éruption est la pire éruption volcanique, à la fois en termes de puissance éruption et de perte économique dans toute l'histoire des États-Unis. À la suite de l'éruption de la montagne, 57 personnes ont été tuées. L'emplacement de l'éruption est maintenant devenu le monument national du volcan St. Helens. Le 18 mai 1974, l'opération de Smiling Buddha Landi a mené avec succès son premier essai nucléaire. Smiling Buddha est un nom de code qui se réfère au premier test d'explosion nucléaire de Landi. Le procès s'est déroulé le 18 mai 1974 à Pokhran et le premier essai nucléaire mené par l'État en dehors de 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie. Le 18 mai 1980, Red Blackburn est décédé. Il est le photographe qui est mort sous l'éruption du Mont St. Helens en 1980. Il est décédé le 18 mai 1980. Il est un photojournaliste couvrant l'éruption de cette montagne pour les journaux locaux, le Vancouver, Washington, Columbian et aussi le magazine national Geographic. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonésiaku. Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec Mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie exporte diverses marchandises vers divers pays. Le président Joko Widodo a publié l'exportation de produits finis en provenance d'Indonésie vers les États-Unis en utilisant un navire géant d'une capacité de 10 000 TEUs ou équivalent 20 pieds. Les produits exportés sont les textiles, les vêtements, l'électronique et les chaussures. Selon le président, l'exportation en utilisant de gros navires à cette occasion est un moment indonésien pour montrer au monde la condition économique nationale qui continue à augmenter. Le président Joko Widodo, au terminal à conteneur international de Jakarta ou JICT au port de Tanjung Priok dans le nord de Jakarta, mardi le 15 mai 2018, a souligné que l'Indonésie devrait continuer à montrer au monde international que l'économie indonésienne reste forte. Le président Joko Widodo a affirmé les exportations vers les États-Unis pour montrer et être un marqueur que l'Indonésie avait un rôle très stratégique dans le jeu économique dans l'Indo-Pacifique. Il a dit, en tant que plus grand pays d'Asie du Sud-Est, continue de se déplacer pour faire de la région Indo-Pacifique comme principale source de croissance économique. En outre, le président a déclaré que l'Indonésie est également un centre de commerce et de l'industrie mondiale. Le président a expliqué que les exportations avec des navires d'une capacité de 10 000 TEUs et l'Indonésie remplit 4 300 TEUs, ce qui signifie que la livraison est très importante et une fois effectuée très efficacement. Selon le président Joko Widodo, cette exportation permettra d'économiser jusqu'à $300 américains par conteneur. La libération de navires géants pèse 95 263 tonnes brutes avec une longueur de 300 mètres a été assistée par le ministre de l'Industrie Airlangga Hartarto, le ministre du Commerce Enggartias Tolukita, le ministre de l'Entreprise appartenant à l'État Rini Sumarno, le ministre des Transports Budi Karya Sumadi, le président de la Société Portuaire d'Indonésie Elvin Zemasasia et le président directeur de l'entreprise de Container Maritime Activities Farid Belbouab. Pendant ce temps, le ministre de l'Industrie Airlangga Hartarto, après avoir accompagné le président Joko Widodo, d'assister mardi à la livraison des exportations et à l'observation des infrastructures du port de Tanjung Priok à Jakarta, a affirmé qu'après cela, sa partie cible l'exportation directe du port de Tanjung Priok à Rotterdam aux Pays-Bas. Airlangga Hartarto a déclaré que l'apport des exportations indonésiennes vers l'Amérique est Los Angeles. Cependant, l'apport des exportations indonésiennes vers l'Europe est Rotterdam. Les expéditions directes de Jakarta réduiront les coûts et créeront des prix compétitifs. Selon lui, les types de produits qui sont exportés vers l'Europe sont entre autres l'huile de palme brute ou CPO et ses dérivés. Il a souligné que cela dépend du développement du produit lui-même. Pendant ce temps, d'autres produits tels que les textiles et les produits textiles et les chaussures sont également un produit excellent. Pour les chaussures, l'Indonésie occupe le 6e rang des producteurs mondiaux, ce qui fait que son potentiel est très important pour être exporté vers l'Europe. Serviteur, c'était Mon Indonésie pour ce soir. Voici donc le rappel de titre de l'actualité.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ambassade d'Indonésie au Caire explique l'Indonésie en toute sécurité. Le forum d'affaires indonésien-français à Bordeaux, la France. Selon le ministère de l'Industrie, l'industrie du batik indonésienne est en tête du marché mondial. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a assisté au sommet spécial de Loki à Istanbul. Les spécialités de café ont attiré l'attention du public de la Suède et la Lettonie. Le ministère du Tourisme forme des chauffeurs de taxi à être des consultants de destination.
Serviteur, c'était le rappel de titre de l'actualité de La Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le Magazine Culturel. Cette fois, nous allons vous présenter le porridge de Kanjirumbi, cuisine typique en provenance d'Aceh, pour l'iftar. Ramadan est arrivé, cela signifie qu'il y aura beaucoup d'aliments et de boissons qui sont vendus au bord de la route avant l'iftar. Et quelquefois, on a peut pas trouver dans d'autres mois, sauf à Ramadan, comme par exemple Kanji Rumbi, l'iftar typique des gens à Aceh, surtout les gens dans le district de Biren. Kanji Rumbi est la bouillie typique d'Aceh qui sont mélangées avec des légumes et des épices comme le poivre, le gingembre, la muscade, la cannelle, les clous de girofle, l'anis étoilé, coriandre, cardamome, citronnelle, feuilles de pandanus, le céleri, l'oignon et l'huile. Les légumes sont composés de carottes, de pommes de terre coupées en coupes et on peut aussi ajouter les crevettes et le poulet en kanji rumbi pour plus délicieux. Pour faire ce porridge, il faut environ 2 jusqu'à 3 heures. En raison de l'utilisation des épices, kanji rumbi a un arôme distinctif avec un goût délicieux et épicé. Cet aliment est également bon pour la santé. Les épices peuvent être un médicament pour réchauffer le corps. C'est pourquoi les gens d'Aceh préfèrent cet aliment pour l'iftar. Pour les habitants d'Aceh, notamment dans le district de Biren, kanji rumbi n'est pas seulement l'iftar. Cette bouillie est devenue une tradition de génération en génération. La population locale cuit kanji rumbi ensemble. Il y a des gens qui donnent des matières premières ou bien donner de l'argent pour acheter des matériaux. Avant la rupture du jeûne, chaque citoyen apporte un contenant pour prendre kanji rumbi dans la mosquée et ramener à la maison comme l'iftar. Dans d'autres régions à Aceh, kanji rumbi est l'iftar qui est distribué dans la mosquée gratuitement. Jérémy, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur, un programme régulier présentant divers aspects de la vie indonésienne, y compris l'art et la culture, l'environnement et la technologie, et même le style de vie. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons Rhino Skate Festival 2018. La zone économique spéciale de tourisme de Tanjung Lesung, qui fait partie des 10 destinations touristiques prioritaires Indonésie, en coopération avec le musée indonésien du surf volant, accueillera le festival Rhino Kids, qui présente 100 surf volants ornementaux. Des surf volants décoratifs aux motifs variés seront déployés sur la côte de Tanjung Lesung, marque le moment officiel du lancement de Rhino Cross Triathlon. Ce festival de surf volant a eu lieu du 12 au 13 mai 2018. Chers auditeurs, Rhino Kite Festival est un circuit de grands événements Rhino Cross Triathlon ou Rhino X3. C'est le premier championnat de cross triathlon ouvert en Indonésie qui se consiste en un concours de natation, une course cycliste et une course de courir à travers de beautés et des défis naturels de Tanjung Lesung, tenu les 29 et 30 septembre 2018. Dans ce festival, une centaine de surf volants ornementaux seront déployés sur la côte de Tanjung Lesung, marquant le moment officiel du lancement de Rhino Cross Triathlon. Le directeur général de PT Banten, l'Ouest de Java ou zone économique spéciale de Tanjung Lesung Tourism Management, et le chef du comité organisateur, Rulli, a déclaré que tous les visiteurs qui assisteront pourront observer les cerfs-volants et suivre l'atelier de peinture des cerfs-volants, voler les cerfs-volants et voir les cerfs-volants nocturnes. Toutes ces activités peuvent être appréciées par les visiteurs gratuitement. Pendant ce temps, l'initiatrice du Musée indonésien des cerfs-volants, Endang Ernawati, a déclaré que le musée prépare une centaine de cerfs-volants ornementaux avec une variété de formes uniques et fascinantes allant des animaux, des super-héros, etc. Pour accueillir le Rhino Cross Triathlon qui se déroulera au festival de Rhino Kite en septembre, les visiteurs pourront également voir les cerfs-volants de triathlon Genki, les vélos Goes et le Rhino Rokaku, ainsi que la présence de joueurs de cerfs-volants de 5 pays comme la Malaisie, Singapour, les Philippines et le Myanmar. Serviteur, c'est l'Indonésie en cours pour ce soir avec le titre Rhino Kites Festival 2018. Nous nous reverrons demain avec notre sujet intéressant. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons régionales de Sumatra du Sud. Pour commencer la rencontre, je vous donne une chanson intitulée Ombai Akas. Bonne écoute et restez avec nous à www.voinews.id.
Kamu lah, warna mana?
la chanson s'intitule Ombai Akas, chantée par Faisal Java et Sari Wijaya. La partie de paroles de la chanson en khmérien est sous la forme de pantoune. Les paroles décrivent quelqu'un qui séduit son idole du cœur. L'autre chanson de Sumatra du Sud que je vous présente s'intitule Chuk Ma Ilang. Cette chanson a beaucoup de versions. Cependant, le thème principal dans ses paroles est l'amour des jeunes, tel que le chagrin, la rencontre avec l'idole du cœur et le désir. Avec ses différentes versions, la chanson Chuk Ma Ilang contient une rime ou pantoune qui s'allongera si beaucoup de personnes qui se joignent à la chanter. Chers auditeurs, écoutons la chanson intitulée Chuk Ma Ilang par Rusla Kamaluddin.
Di situ rumah aku.
chers auditeurs, avant de terminer la rencontre, je vous donne deux chansons de Sumatra du Sud, dont les titres sont Jangan Herak par Icha Sischal Haji et Dirut par Karel Simon. La chanson intitulée Jangan Herak que vous allez écouter signifie ne pas divorcer. Elle contient des messages pour les jeunes, en particulier les jeunes mariés. Le message est, pour célébrer le mariage, ne soyez pas trop chic et ne vous battez pas avec votre partenaire. Tandis que Dirut est le nom d'un enfant que son père l'a laissé errer. Son père lui manque énormément, mais son père ne rentrera jamais à la maison parce qu'il a été mort quand il errait. Voilà deux chansons que vous allez écouter. Bonne écoute et à demain!
Thank you.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/french.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.